4 juillet 2005, Palo Alto, Californie. Jawed Karim, 25 ans, passe timidement le pas de porte de la villa de Mike Greenfield. Il fait chaud en ce jour de fête de l'indépendance des États-Unis. Mike a rassemblé des anciens de PayPal autour d'un barbecue pour fêter ce 4 juillet. Jawed est invité à ce titre. Il a d'ailleurs officié comme développeur pendant 2 ans aux côtés de Mike. Une vingtaine de personnes s'agitent donc et discutent une bière à la main. Bientôt, le jardin est envahi par l'odeur des grillades et saucisses. Les discussions vont bon train. Mike, en maître de maison débonnaire, sert la viande à la file d'invités devant lui. Dans la queue, Jawed, toujours timide, est entrepris par son voisin. Un grand type au front dégarni qui respire l'enthousiasme, Kiss Rabois. Assailli de questions par ce type élancé sûr de lui, Jawed finit par lui parler du projet sur lequel il travaille. Kiss, pragmatique, ne laisse pas à Jawed le temps de finir sa saucisse. Il veut voir la démo. Les deux hommes se réfugient alors dans une chambre à l'étage de cette grande propriété californienne. Jawed ouvre le PC de son ami et lance une vidéo. Sur l'écran défile une vidéo où l'on peut voir un homme, Jawed, aux os dissertés sur les différentes tailles de trompes d'éléphant. Je vous emmène aujourd'hui dans les pas des créateurs de YouTube et comment une start-up avec peu de moyens a pu battre, écoutez bien, 280 concurrents, parmi lesquels un certain Google. Bienvenue! Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brouin, je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Tout commence chez PayPal, la start-up mythique du début des années 2000. PayPal a vu naître en son sein les fondateurs des plus grandes entreprises technologiques. Max Levchin, Peter Thiel, auteur du bouquin de 01, Reid Hoffman qui a fondé LinkedIn, ou même Elon Musk, que je ne vais plus présenter ici. Et c'est là d'ailleurs que les trois fondateurs de ce qui deviendra YouTube se rencontrent, Steve Chen, Jawed Karim et Chad Hurley. Si Steve Chen et Jawed Karim sont tous deux originaires de Chicago et ont fréquenté la même université dans l'Illinois, Chad Hurley est clairement l'artiste du trio. Premier designer maison, c'est à lui d'ailleurs qu'on doit le logo de PayPal qui sera utilisé pendant plus de 10 ans. C'est d'ailleurs, il faut bien le dire, ce logo qui lui a valu d'être embauché par Max Levchin, le patron de PayPal à l'époque. Chen et Hurley s'affairent, eux, du côté du développement du site internet. Les deux hommes travaillent d'ailleurs en étroite collaboration jusqu'à l'acquisition de PayPal par eBay en 2002. Chen, de son côté, écume aussi les soirées PayPal et enfile les pots cigarettes pour discuter avec ses collègues. Du trio, peut le dire assez clairement, lui, le plus impulsif et émotionnel. Hurley, plus posé, déjà marié d'ailleurs, s'impose sans peine dans le rôle du bon père de famille. 2002, sonne une nouvelle ère. PayPal est racheté par eBay pour 1,54 milliard de dollars. Chad, en tant qu'employé de la première heure, part avec un capital suffisant pour s'acheter les objets de luxe qu'il a toujours aimés et surtout de quoi démarrer une nouvelle entreprise. Jawed et Steve, quant à eux, arrivés plus tard, reçoivent évidemment un peu moins d'argent. Mais moins qu'avec un capital, les trois hommes partent avec un réseau, celui des anciens de PayPal. Réseau qui leur permettra de construire l'entreprise la plus emblématique des années 2010-2020, celle qui transformera l'internaute lambda en créateur de contenu vidéo, YouTube. Mais nous n'en sommes pas encore là. Avec l'argent de PayPal, les trois hommes connaissent des fortunes diverses. Chen enchaîne les fêtes et les heures de jeux vidéo, comme à son habitude avec ses copains. Jawed, lui, continue son boulot de développeur en attendant de reprendre ses études. Le jeune introverti poursuit un rêve. Il veut intégrer Stanford, la prestigieuse université de la Silicon Valley. Quant à Chad, il devient consultant indépendant en design et consacre l'essentiel de son temps à fonder une famille. Il achète même un appartement avec sa femme et accueille leur premier enfant. Pourtant, tout ce temps-là, les liens entre les trois hommes, malgré leur vie très différente, ne cessent de se resserrer et il ne se passe pas une semaine sans qu'ils se voient. Un jour de janvier 2005, Steve invite même Chad dans sa nouvelle maison. Une fois le tour du propriétaire fini, il relance la discussion sur son nouveau jouet, un caméscope. Chen, toujours aussi enthousiaste et impulsif, n'a pas arrêté de filmer depuis qu'il l'a acheté. « Hey Chan, j'ai filmé la semaine dernière notre soirée avec Jawed. Vas-y, envoie-moi la vidéo avec ton PC, je n'ai pas de clé USB », lui rétorque Hurley. Mais après quelques tentatives sur 2-3 sites qui viennent de se lancer, les deux amis doivent se rendre à l'évidence, impossible en l'état de partager les vidéos. Les sites plantent à chaque essai et les messageries les bloquent car les fichiers sont trop lourds. C'est Jawed qui leur propose de monter un site de partage vidéo. Ça fait lui aussi presque quelques temps qu'il y pense.
En 2004, pendant le Super Bowl, en gros le Super Bowl c'est la finale de championnat de football américain. C'est juste regardé par des centaines de millions de personnes. Bon donc, pendant le Super Bowl de 2004, Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson, faisait un show avec Justin Timberlake. À la fin du spectacle, un scandale explose quand un de ses seins apparaît en direct. L'incident est vu par tous les États-Unis. Jawed voulait juste revoir cet extrait, et il l'a longtemps cherché sur internet avec ses deux amis quand ils se sont dit « C'est quand même bête qu'il n'existe aucun site de partage de vidéos. Ça serait quand même vachement plus simple, non ?» Et boum, Eureka.
Ils sont quand même tous un peu dubitatifs sur ce projet. Il faut dire qu'à l'époque, la lenteur, rappelez-vous 2005, la lenteur des connexions et la diversité des formats de fichiers vidéo rendent la lecture des vidéos sur un ordinateur compliquée. Et c'est un euphémisme. Pourtant, le 14 février 2005, ils créent leur société, un site de rencontre en ligne par vidéo. Les trois copains se sont dit que la recherche de l'amour était donc une bonne motivation pour se filmer soi-même.
Peut-être que vous avez remarqué, mais le site a été fondé le jour de la Saint-Valentin. Mais pas pour n'importe quelle raison. À la base, YouTube devait être un site de rencontre. Et oui, les gens qui venaient s'inscrire sur ce site venaient là pour trouver l'amour.
Après ce joli accent québécois, il faut aussi savoir que pour l'anecdote, Tinder lancera sa fonctionnalité vidéo en mai 2020. Les trois hommes se mettent donc d'accord sur le nom YouTube. You, comme toi en anglais évidemment, hein. Tube pour le mot familier qui désigne la télévision aux États-Unis. Chad, évidemment, dessine le logo. Le design de ce dernier reprend le nom de la société. Caractère noir pour le You, alors que le Tube, s'affiche dans le cadre rouge d'une télévision stylisée. Et après 2 mois de travail acharné, YouTube est mis en ligne le 23 avril. Mais rien. Aucun trafic. Ni les garçons, ni les filles ne déposent de vidéos. Les voilà à mettre en ligne eux-mêmes leurs propres vidéos. Contre toute attente, c'est Jawed, l'introverti, qui dépose la première vidéo. 19 secondes où il se filme en train de commenter les trompes d'un éléphant au zoo.
Cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool.
Il le dit lui-même d'ailleurs. Les trucs cool avec ces bêtes, c'est qu'elles ont vraiment de très 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 longues trompes. Et ça, c'est cool. Ce qui l'est moins par contre, c'est que leur site ne démarre pas. Le concept de site de rencontre par vidéo n'est pas compréhensible. Et même en proposant à des femmes de publier une vidéo pour $20, rien n'y fait. Qu'importe, ils imaginent autre chose et transforment leur site en service de messagerie vidéo. Les internautes vont pouvoir s'envoyer des messages via vidéo et ça, c'est vraiment cool. Mais rien ne se passe comme prévu. Lorsque les utilisateurs découvrent le service, ils y voient moins une messagerie qu'une manière simple et fun de partager des vidéos. Et pour relayer les vidéos qu'ils postent, les internautes utilisent le leader des réseaux sociaux en 2005. C'est pas Facebook, c'est MySpace. L'usage ici fait le produit et très vite, le trafic sur YouTube décolle. Et avec lui, les premières vraies difficultés pour les trois fondateurs. Alors c'est d'abord Jawed qui annonce à ses deux copains qu'il poursuit ses études à Stanford dès septembre. Et en plus il est pris et voit donc son rêve se réaliser. Mais les vrais problèmes de YouTube sont structurels. En 2005, la société tourne notamment grâce à la communauté naissante et peut s'appuyer sur des développeurs bénévoles. Mais il s'avère que, revers du succès, le coût de la bande passante atteint des sommes folles. Steve et Chad ont beau puiser dans leur pactole personnel, rien n'y fait. Il faut vite trouver une solution. Et si en France, il faut bien le dire, les difficultés se résolvent souvent autour d'un bon repas, rappelez-vous, nous sommes en Californie. C'est pas grave, cela se fera autour d'un bon barbecue. Nous voilà donc en cette belle journée du 4 juillet 2005, jour de la fête de l'indépendance américaine. Mike Greenfield fait donc griller les saucisses pour les enceintes PayPal. Steve et Chad, bien qu'invités, n'ont pas pu se libérer. Jawed s'est finalement décidé à venir, même seul. Il est heureux de retrouver ses anciens collègues. S'il ne connaît Kiss Rabois que de nom, il situe complètement cet ancien directeur de PayPal qui depuis d'ailleurs travaille pour une société d'investissement, Khosla Ventures. Kiss, toujours à la recherche de talent, questionne Jawed, qui est bien obligé de parler de son site de partage de vidéos appelé YouTube. Rabois, curieux et pragmatique, pousse l'interrogatoire et lui pose alors trois questions simples. Est-ce que tu utilises Flash ? Est-ce que tu héberges du contenu professionnel ou à longue traîne ? Et peut-on diffuser le contenu sur le web ? Jawed répond par l'affirmative aux trois questions. Ah oui, j'utilise Flash. Oui, le site héberge des contenus de longue traîne. Et oui, on peut le distribuer sur le web. Alors, faut se rappeler quand même qu'à ce moment-là, on est à la préhistoire de la technologie. Les téléphones, bah, ça sert à téléphoner. Et les ordinateurs, ça sert à taper du texte ou bien à aller sur Internet. Les deux hommes se voient donc contraints de gagner une chambre pour regarder la démo de Jawed. 30 minutes plus tard, Kiss lui lâche sans trop réfléchir. « Je veux investir !» Pour la petite histoire d'ailleurs, Rabois n'a fait ça que deux fois dans sa vie. La deuxième fois, il l'a fait quelques années plus tard pour Airbnb. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter l'histoire puisque j'ai raconté l'histoire d'Airbnb sur un autre épisode. Pour Kiss Rabois, le composant Flash a été un facteur important dans sa décision. Il s'agit d'une technologie très innovante à l'époque. Un an plus tôt d'ailleurs, Max Levchin, le CEO de PayPal, a même déclaré que Flash était l'avenir. Depuis février 2003, je cherche donc littéralement quelque chose qui utilise Flash, nous dit Rabois. Peu après le barbecue, il envoie un mail à Botta, son ami et ancien directeur financier de PayPal, à propos de YouTube. Ce dernier n'hésite pas une seconde. En moins de 24 heures, je me suis inscrit, raconte-t-il. Ironie de l'histoire, le site à ce moment-là a tellement peu de trafic que l'équipe de YouTube scanne encore les noms de tous les nouveaux utilisateurs. Les créateurs de YouTube reconnaissent donc le nom de Botta, leur ancien directeur financier chez PayPal. À la fin de l'été, Botta pousse même sa société Sequoia Capital à investir 500 000 dollars dans YouTube. Et ce, malgré le départ à l'université de Jawed, qui complique évidemment le pitch à destination de la presse et des investisseurs. En novembre 2005, YouTube conclut même un deuxième tour de table de Serie A de 3,5 millions de dollars, puis un troisième en mars 2006 de 8 millions de dollars. La machine est lancée. Une question se pose alors. Comment la petite dernière des plateformes de vidéo va gagner la bataille de l'audience ? Il est vrai qu'avec plus de, écoutez bien, 280 sites de partage de vidéos, c'est alors un véritable Far West. Pour ce faire, la première explication est peut-être que dans le Far West, il vaut mieux avoir avec soi la cavalerie. Et la cavalerie ici, c'est le réseau tentaculaire des enceintes PayPal. PayPal a alors la start-up mythique avec eBay des années 2000 avec un réseau et une influence qui s'étendent dans toute la Silicon Valley. PayPal, c'est aussi les grandes stars de la tech. Elon Musk, Reid Hoffman, Peter Thiel. C'est donc tout naturellement que PayPal se retrouve partout dans YouTube. Les premiers investisseurs des enceintes PayPal, les premiers salariés des enceintes PayPal, les premiers utilisateurs des enceintes PayPal. Un réseau nécessaire mais pas suffisant. La seconde explication du succès tient à la technologie. L'utilisation de Flash rend l'usage de la plateforme d'une simplicité enfantine. Plus de problèmes de format, de codec et autres raisons de fail pour déposer une vidéo. Tout fonctionne en un clic. Vous pouvez charger la vidéo et YouTube se charge de la transposer en Flash, explique un ancien développeur. C'est ce que raconte Chad Hurley. Simplifier le process comme ils l'ont fait chez PayPal.
We saw the power of simplifying a process and giving everyone a solution. So in that case, you know, being early employees there, we did that for payments and we saw the same opportunity here in the video space.
Troisième explication, le partage des vidéos. Le copier-coller de l'URL est mis en évidence et identifié comme une fonctionnalité de partage. Et ça marche. Sans compter d'ailleurs que YouTube est l'un des premiers à mettre des compteurs de vues publics sur toutes les vidéos. Une flatterie de l'ego des utilisateurs qui donne des résultats. Quatrième explication, YouTube permet d'intégrer facilement sur n'importe quel site ses vidéos. L'effet MySpace, le Facebook de l'époque, va jouer d'autant plus avec cette fonctionnalité. Les internautes ne s'y trompent pas et très vite se forme autour de YouTube une communauté forte et engagée. Une communauté d'ailleurs qui préfère s'engager sur YouTube que sur Google Vidéo. Parce qu'il faut savoir qu'en 2005 aussi, Google est un géant incontesté de la tech et tout le monde pense qu'il va tuer la concurrence avec son service Google Vidéo. Sauf que... Avec Google Vidéo, écoutez bien, vous devez savoir dans quel codec est votre vidéo, quelle est la dimension de l'image vidéo, se plaint un utilisateur. Avec YouTube, tout est en flash et lorsque vous voulez télécharger une vidéo sur YouTube, la seule chose que vous devez faire est d'appuyer sur un bouton qui dit « Télécharger ». La viralité fait alors le reste. Première vidéo à faire le buzz, celle d'un joueur de foot brésilien, Ronaldinho. Paradoxalement, une vidéo réalisée par l'équipementier du joueur, Nike.
Un tout petit peu plus d'un an plus tard, en juillet 2006, une vidéo montrant le joueur de foot Ronaldinho s'amuser avec un ballon est la première à atteindre le million de vues. Cette vidéo avait été postée en octobre 2005 et est d'ailleurs toujours accessible.
En janvier 2006, YouTube enregistre 15 millions de vues par jour. En mars, ce chiffre passe à 40 millions. En juin, il atteint 80 millions, donc on double, hein, on fait plus que doubler. Une croissance soutenue qui n'est pas sans se faire remarquer par la presse. D'avril 2006, le New York Times évoque le phénomène YouTube et émet même l'idée que YouTube pourrait créer ses propres stars. Une réussite fulgurante qui ne manque pas d'inquiéter d'autres acteurs, ceux de l'entertainment. Les vidéos virales s'enchaînent, à tel point d'ailleurs que les producteurs de contenu des médias traditionnels, comme donc les studios, les chaînes de télé commencent à réagir. Les utilisateurs déposent des vidéos dont ils n'ont pas forcément les droits et ça commence à irriter en haut lieu. Hollywood ne veut pas d'un nouveau Napster. Vous savez, hein, pour ceux qui se rappellent, c'était un site illégal dans les années fin 90, début 2000 de partage de chansons en ligne que les studios de musique ont tué il y a déjà quelques années. D'ailleurs, Chad essaie de répondre à cette problématique.
Question fondamentale, celle du copyright. Il y a des procès qui s'accumulent contre vous. Une société américaine vous réclame $1 milliard de dédommagement. Est-ce que YouTube et les autres sites communautaires, c'est la fin du copyright?
Non, je ne crois pas. Voilà, on a toujours fonctionné, on a toujours respecté la loi dès le départ. On a été très innovateurs dans le développement des technologies afin de faire face à toutes les vidéos que nous recevions au quotidien.
Pourtant, en 2006, YouTube reçoit les premiers courriers d'avocats et dès 2007 tombent les premières plaintes officielles. Des menaces à ne pas prendre à la légère. YouTube sera-t-il un nouveau Napster? Par ailleurs, les besoins en bande passante sont gigantesques. Et l'argent des levées de fonds ne va bientôt plus suffire. Ils dépensent, écoutez bien, à l'époque c'est énorme, hein, plus de $1 million chaque mois en bande passante. À l'été 2006, ils ont d'ailleurs déjà dépensé une bonne partie de leurs $11.5 million et ils doivent encore une fois solliciter leurs investisseurs. Entre croissance fulgurante, équipe surmenée, coûts de stockage, problèmes juridiques et coûts de bande passante délirants, l'année 2006 se termine pourtant en feu d'artifice pour presque tout le monde. YouTube est sur toutes les lèvres. En ce début d'année 2006, le site de vidéo attise les convoitises, et en particulier celles des gens de l'Internet et des médias de l'époque. Microsoft, News Corp, qui possède alors le réseau social MySpace, Yahoo et Google. Toutes ces firmes voient le potentiel de YouTube. Les géants de la tech sont sur le pied de guerre. En septembre 2006, David Drummond, directeur juridique de Google, envoie un mail à Hurley. Nous sommes très intéressés par votre société. Auriez-vous un moment pour échanger ? Il est simple, mail. Hein. Un mois de septembre chargé d'ailleurs pour Steve et Chad, qui ne rencontrent pas moins que les dirigeants de Yahoo puis ceux de Google. Et ce, à un jour d'intervalle dans le même restaurant de burgers. Steve et Chad ont enfin pris la décision de vendre. La pression pèse sur leurs épaules et les problèmes à gérer leur paraissent vraiment trop complexes et trop urgents. Les deux fondateurs de Google, lorsqu'ils rencontrent ceux de YouTube, voient deux hommes bouffis, accaparés par les soucis et le manque de sommeil. J'espère qu'ils y cachent quand même un peu, hein, pour bien négocier. En tout cas, l'hypercroissance a raison de leur santé. Une raison de plus pour faire du mouron ? YouTube est proche de la cessation de paiement. Si les investisseurs ne remettent pas au pot rapidement. Et puis, Steve et Chad rêvent de vendre et d'avoir enfin l'argent qui leur permettrait d'accomplir leurs rêves. Que ce soit s'afficher en une des magazines, collectionner les voitures de sport ou mettre à l'abri sa famille. Le choix de l'acquéreur est difficile, mais ils se décident finalement pour Google, qui leur assure un excellent prix, mais surtout une continuité des services avec des serveurs et de la bande passante.
C'est la peur de Google, de sa puissance, d'être finalement absorbé par, par le géant et de disparaître.
On a parlé beaucoup,
et voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons décidé de nous lancer avec Google. En fait, ils voulaient maintenir notre indépendance, on a toujours notre bureau, nous prenons toujours nos propres décisions, ils voulaient donc maintenir l'innovation au sein de l'espace vidéo, c'est une grande société, et voilà, nous sommes un peu plus agiles parce que nous sommes plus petits, voilà, ils voulaient maintenir cette situation.
Le 9 octobre 2006, Hurley et Chen annoncent au monde entier que Google rachète la société pour 1,6 milliard de dollars. Le gain est énorme. D'ailleurs, les deux fondateurs l'annoncent même sur YouTube, évidemment. Chad parle en premier et annonce l'acquisition, puis Steve remercie la communauté.
Hi YouTube, this is Chad and Steve, we're the co-founders of the site and we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google.
Yeah, thanks. Thanks to every one of you guys that have been contributing to YouTube, the community. We wouldn't be anywhere close to where we are without the help of this community.
En février 2007, Chad Hurley reçoit environ 345 millions de dollars en actions Google, tandis que Steve Chen reçoit 326,2 millions de dollars. Jawed Karim, pour quelqu'un qui a bossé que quelques mois, même s'il a eu l'idée et fait les premiers efforts, reçoit lui 64,6 millions de dollars. Sequoia, la société d'investissement qui a investi 13 millions de dollars au total, reçoit 442 millions de dollars. 41 fois la mise, hein, environ 40 fois la mise. Même les employés subalternes de YouTube reçoivent des sommes astronomiques. Écoutez bien, la réceptionniste Shannon reçoit par exemple 1,3 million de dollars. À l'annonce de la vente, le monde entier crie à l'arnaque. 1,6 milliard de dollars, c'est exorbitant. 15 ans plus tard, tout le monde comprend que Google a fait un très beau deal. Aujourd'hui, YouTube réalise plus de 20 milliards de chiffres d'affaires, 20 milliards de dollars évidemment, soit 12% du chiffre d'affaires global de Google. Mais surtout, YouTube est devenu un phénomène de société, devenant notamment le premier réseau social au monde. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté L'Apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serais très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.